Reprendre l'exposé de l'Épître aux Éphésiens. Devant lui, je me suis tenu, j'ai prié, puis j'ai vraiment eu à cœur de reprendre le livre aux Éphésiens. Et juste en introduction, j'aimerais que nous puissions d'abord prier, puis on va faire un rappel de là où nous sommes, de ce que nous avons déjà vu, puis nous regarderons ce que le Seigneur place devant nous ce matin. Prions. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants de ta présence. Oui, il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternels. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, pour que tu sois vu, entendu, proclamé. Seigneur Jésus, que tu croisses et qu'on décroisse, comme disait Jean-Baptiste. Que tu puisses, Seigneur, te manifester dans nos vies pour cette nouvelle année 2013 de façon puissante. Que nous puissions nous tenir devant toi, humblement, pour marcher dignement, pour te plaire dans nos vies, mettre ta parole en pratique, être des ouvriers qui travaillent pour toi, qui portent du fruit comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte du fruit en sa saison. Nous te demandons, Seigneur, de nous visiter les uns les autres. Tu sais là où nous nous trouvons chacun. Tu connais nos besoins. Tu sais notre besoin de toi, tout d'abord, de ta personne, de ta parole qui est une nourriture, une lampe à nos pieds. Nous te confions, Seigneur, nos vies personnelles, nos vies de foyer, nos vies de famille. Nous te confions aussi nos bien-aimés, là où ils se trouvent. Nous te confions la vie de l'Église. C'est ton Église, Seigneur, elle t'appartient. Un jour, tu la présenteras devant l'Éternel, sans tache, ni ride, glorieuse, Seigneur Jésus. Que nous puissions être dans nos vies à tes pieds, pour vivre cette vie d'église selon tes plans et être plein d'amour les uns envers les autres. Merci de bénir ta parole, au nom de Christ. Amen. L'Épître aux Éphésiens est une épître extraordinaire. Je vous invite à tourner dans l'Épître aux Éphésiens. On a déjà vu au chapitre 1, n'est-ce pas, que le Seigneur nous a placés en lui. Et qu'en lui, nous avons la révélation, nous avons besoin même d'avoir les yeux illuminés pour voir toute la révélation du Fils de Dieu qui nous a sortis de nos péchés, qui nous a sortis de l'esclavage du péché, qui nous a sortis des ténèbres, de la puissance de Satan, qui nous a transportés dans le royaume de son amour. C'est comme s'il nous a menés en haut du sommet de l'Himalaya pour nous faire contempler toute sa beauté spirituel. Il nous a placés en Christ, et non seulement en lui, mais aussi dans l'Église, c'est un mystère. Il nous a révélé son amour, et c'est tout ce que nous avons en lui. Et ensuite, l'apôtre Paul, vous savez, dans ses épîtres, a souvent une partie dite dogmatique, théologique, et c'est les trois premiers chapitres. Nous avons commencé à regarder à partir du chapitre 4 ce que c'est que la marche du croyant. Dieu nous appelle à une marche digne, selon la vocation qui nous a été donnée. Dieu nous appelle à vivre une vie qui n'est pas comme les païens, une vie aussi dans l'unité dans l'Église, une vie aussi en nouveauté de vie, remplie du Saint-Esprit, une marche pleine d'amour, une marche dans la lumière, une marche dans la sagesse, et c'est tout ce qu'on voit au chapitre 4 et chapitre 5, et aussi être rempli du Saint-Esprit afin que notre marche soit digne dans nos foyers, c'est ce que nous allons regarder ce matin, notamment au sujet du mariage, mais plus tard on regardera au sujet de la société et l'éducation des enfants, et puis aussi être rempli du Saint-Esprit dans le combat spirituel. Nous regarderons ensemble les ruses du diable et comment vaincre l'ennemi et avoir la victoire. Parce que même si nous sommes assis dans les lieux célestes, eh bien on est sur terre, c'est une réalité. On marche sur terre avec les obstacles à parcourir, n'est-ce pas ? Mais aussi le défi de mettre la parole de Dieu en pratique et de vivre une vie sainte qui lui soit agréable. Est-ce que nos vies de foyer lui plaisent ? Et je pense que c'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Nous qui sommes mariés, alors vous qui allez être mariés un jour, ben écoutez quand même, hein. Mais nous qui sommes mariés, est-ce que notre vie de couple plaît à Dieu ? Est-ce que notre Église réalise sa relation pleinement avec Jésus-Christ ? C'est ce que nous allons regarder ce matin. Et je vous invite à regarder avec moi au chapitre 5 et au verset 22 pour continuer notre exposé par prédication de l'Épître aux Éphésiens. La Bible dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur ». Alors on expliquera, on a déjà expliqué, n'est-ce pas, notamment à la fin du petit paragraphe que nous avions vu ensemble, enfin 18 à 21, ce que c'est que la soumission, verset 21. Soumission, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Un chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien soumis à Dieu et envers les autres. Et bien sûr, ça se voit automatiquement dans le foyer. C'est ce que fait comme application l'apôtre Paul lorsqu'il commence à parler de la soumission. Il l'applique de suite au foyer. Qu'est-ce qu'il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Dans ce passage, la relation du mari et de la femme est comparée avec celle qui unit Christ et son Église. Dans l'Ancien Testament, et c'est ce que nous avions vu au mariage de Stéphane et d'Acha, une merveilleuse histoire, en Genèse chapitre 24, une histoire assez extraordinaire d'un père, Abraham, avancé en âge, un père modèle, qui a à cœur que son fils se marie, mais avec une fille de Dieu, une enfant de Dieu. Et donc, il envoie son serviteur chercher une femme pour Isaac, un jeune homme quand même d'une quarantaine d'années, et il est temps qu'il se marie. Célibataire, qui a perdu sa maman, et alors il l'envoie, il a cœur, n'est-ce pas, que son fils se marie, il trouve une épouse selon le cœur de Dieu, et il envoie son serviteur qui, par la providence de Dieu, des circonstances miraculeuses, trouve la femme de rêve pour Isaac. C'est extraordinaire ça, et il se soumit à la directive de son patron, en quelque sorte, Abraham, et il trouve la femme de rêve pour Isaac, et l'histoire se termine, et Rebecca accepte de quitter sa famille et d'aller retrouver son futur qu'elle ne connaît pas réellement. Mais cette histoire nous plonge dans un symbolisme qu'il ne faut pas passer, puisque Abraham symbolise Dieu le Père, le serviteur Dieu le Saint-Esprit, le fils Isaac, le fils de Dieu, et Rebecca l'épouse. Et on sait qu'un jour, nous les enfants de Dieu, l'Église, on sera mariés dans les cieux, Apocalypse, n'est-ce pas, comme une église de Jérusalem qui sera parée d'or. Le mot grec ici, c'est l'idée de se farder, de s'orner de façon extraordinaire. Même si on est déjà l'épouse de Christ, eh bien, le mariage aura lieu dans les cieux. On appelle ça les noces de l'agneau, c'est extraordinaire. Et donc cette histoire nous montre que Dieu établit une relation dans le mariage en comparaison avec sa relation d'alliance déjà qu'il a établie envers Israël. Dieu a déjà dit, par exemple, en Ésaïe 54, verset 5, que Israël est son épouse, c'est son peuple qui lui appartient, c'est son épouse. C'est son alliance. Et ainsi, il montre que cette relation, même avant que Paul nous la montre ici dans l'Épître aux Éphésiens, existait déjà, symbolisant le mariage, cette relation d'amour de Dieu le Père envers le peuple, elle est le reflet de ce que Dieu veut au sein du mariage. Cette image, nous la retrouvons donc en Éphésiens chapitre 5. Et pourquoi est-ce que Dieu, et au travers de Paul, n'est-ce pas, le Saint-Esprit a inspiré Paul pour nous parler du mariage comme l'image de la relation de Christ avec son Église. Bien, c'est simple, parce que Christ aime son Église. C'est une relation d'amour. Et dans un mariage, il n'y a succès du mariage que lorsqu'il y a une véritable relation d'amour. Le succès du mariage, c'est l'amour entre le mari et la femme et le mari. D'ailleurs, si vous regardez avec moi attentivement le passage, j'ai souligné au verset 22, « femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Il y a constamment cette expression comme. Verset 23, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Verset 25, comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle. Verset 29, comme Christ le fait pour son Église. En fait, chaque fois que Paul parle du mari ou de la femme, il compare avec Christ et sa relation avec l'Église. Et finalement, au verset 25, il dit... Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il finit au verset 32 en disant « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Alors, le mariage est une image de l'Église, sa relation avec Christ. Le mystère est grand parce que l'Église est l'épouse de Christ et Christ est son époux. Est-ce que nous comprenons vraiment ce que cela veut dire ce matin? Et est-ce que nous vivons dans nos foyers, nous qui sommes mariés, cette relation unique mari et femme, sous l'image de cette relation extraordinaire qu'a Jésus envers son Église. Alors vous savez, la société aujourd'hui bouleverse le mariage, n'est-ce pas? Et Satan qui attaque le mariage et les couples, au travers de cela, attaque la société entière. Je ne sais pas, en France, on a 50-55% de mariages, n'est-ce pas, qui échouent, et un grand pourcentage de divorces, et il y a des questions à se poser. Il n'y a aucune entreprise au monde qui voudrait qu'après sa production, 50 à 75% de sa production de voitures notamment, n'est-ce pas, tombe en panne et ne marche plus et soit mise au rebut. Et malheureusement, notre société, nous vivons un rejet de ces valeurs du mariage. Ce matin, nous allons regarder au travers de ce texte ce qu'est la relation de Jésus-Christ envers son Église, pour bien comprendre ce qu'est le mariage. La relation de l'Église, donc, avec le Christ, dans l'autre sens, la relation de la femme envers le mari, et la relation, donc, du mari avec la femme, à l'application de cette image. Alors, nous commençons à regarder quelle est la relation de Christ envers son Église. Si on pouvait juste un petit peu monter le son, merci. Que dit ce texte au sujet de Christ et de l'Église? Tout d'abord, la Bible dit que Christ est le chef de l'Église, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. En Éphésiens, on a vu précédemment, en chapitre 1, et versets 22 et 23, à propos de Jésus-Christ, c'est Dieu, il a mis tout sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus-Christ est le chef de l'Église, il en est la tête. Un corps qui n'a plus de tête meurt. Un corps qui n'a plus de tête se paralyse, est handicapé, ne peut plus vivre, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église » et nous sommes un corps, des membres, nous avons chacun certainement une part, dans la mesure où on a accepté Jésus-Christ comme sauveur. C'est-à-dire qu'on a accepté Jésus dans notre vie comme celui qui nous a purifiés de nos péchés, lavés de nos péchés par son sang et qui nous a donné comme un don extraordinaire le don de sa vie, la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est ça avoir accepté Jésus comme sauveur. Et lorsqu'on a accepté Jésus, la Bible dit qu'on est de nouveau et on est plongé dans l'Église. Vous avez été baptisé dans un seul esprit qui vous a plongé dans son corps. La même celui qui accepte Jésus, il fait la même expérience que ceux qui ont connu la Pentecôte. Ils sont plongés, immergés en Christ dans son Église par le Saint-Esprit. Jésus est le sauveur de l'Église. Jésus a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour l'Église, il a tout donné. Et nous sommes son corps. Chaque membre a sa part, mais chaque membre dépend de la tête. Et le corps dans son ensemble dépend les uns des autres, et s'il n'y avait pas la tête pour diriger l'Église, eh bien l'Église ne serait plus l'Église, elle ne serait plus unie. Ce qui veut dire que Jésus est la tête d'un corps qui est uni parce que la vie vient de la tête. Et si on coupe le corps de la tête, eh bien l'Église se désagrège, il n'y a plus de vie. Nous avons besoin de toujours regarder à Jésus comme le chef de l'Église. N'oublions jamais cela. Et dans quel but Jésus est le chef de l'Église? La Bible dit qu'il s'est livré, qu'il s'est donné entièrement. Jésus a donné sa vie de façon totale et absolue, en dépendance totale et absolue à Dieu le Père, jusqu'à l'obéissance de la mort de la croix. Il est ressuscité, il nous a justifiés. Et maintenant, quel est son but? Et nous l'avons au verset 26, vous allez voir qu'il y a de nombreuses applications après dans la vie du couple, afin de la sanctifier, l'Église, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître, et c'est son but ultime, devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Jésus a une perspective éternelle pour son Église. sur la terre, il nous prépare, il nous purifie, il nous transforme par la puissance de sa parole et son esprit, afin un jour, dignement, de nous présenter à Dieu le Père dans le ciel, afin que cette Église soit présentée de façon glorieuse, digne, sans ride, etc. Vous vous rendez compte? Le plan de Dieu, comme il nous aime. Mais souriez ce matin. Dieu va vous amener dans sa gloire en Jésus-Christ. Vous avez le droit de sourire ce matin si vous êtes en route pour le ciel. Vous avez le droit de penser que Dieu vous aime à tel point qu'il va partager sa gloire avec vous. Et même si sur cette terre il y a quelques épreuves, n'est-ce pas, parce que Dieu veut nous façonner, nous transformer, nous rendre semblables à Jésus, et donc il y a une œuvre de sanctification ou de purification, mais son but est glorieux. Qui n'a pas envie en tant que père ou mère que son enfant réussisse? Mais Père, le Père céleste que nous avons a dans son cœur le fait qu'il veut que son Église dans le ciel soit glorieuse, splendide. Imaginez cela. Et donc il travaille en nous pour nous faire paraître un jour comme cela. C'est merveilleux cela. On va être tellement beaux tous et chacun. On ne va même pas se reconnaître, je pense, tellement on va être transformé, n'est-ce pas? Mais en attendant, achevons, laissons achever l'Esprit de Dieu en nous, son œuvre, et nous transformer, et qu'après quelques années qu'on se fréquente, on se voit transformé quand même, non? Que Dieu nous continue à nous transformer. Il a fait commencer une œuvre en nous, il veut l'achever, il l'a promise. Et cette œuvre, eh bien, laissons-le faire en nous, afin de vivre cette vie d'Église aujourd'hui qui un jour va paraître devant Dieu de façon extraordinaire et glorieuse. Vous êtes cette part de cette Église. Dieu a ce plan pour chacun de vous. Et donc, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Il vous prépare dans son Église et bien sûr, l'Église universelle, l'Église locale. On se comprend. Mais c'est merveilleux cela. Et d'ailleurs, Jésus a dit en Philippiens 6, enfin, c'est Paul qui parle, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, jamais, évidemment, on n'est jamais parfait, n'est-ce pas? Mais un jour, Dieu nous rendra parfaitement parfait, et quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur, parce qu'un jour, on rencontrera Dieu, on le verra, mais on sera parfait, ce sera merveilleux. Et puis, quatrième point, alors j'ai marqué ici que Jésus, n'est-ce pas, a aimé l'Église, il est son sauveur. Il s'est livré pour l'Église et puis il prend soin de l'Église, ça se trouve verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais elle la nourrit en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Alors on pourrait développer largement, n'est-ce pas, cette relation de Christ avec son Église, de voir comment Dieu prend soin de son Église et combien son amour qui a commencé à la croix ne cesse de jaillir dans nos cœurs, dans l'Église, et n'a fait que commencer à la croix pour nous qui sont encore au bénéfice sans cesse son amour. Du renouvellement du Saint-Esprit dans nos vies, et c'est grâce sur grâce que nous pouvons vivre en tant que croyants et grâce sur grâce que nous pouvons vivre en tant qu'Église à cause de cette relation d'amour que Dieu le Père a eu avec son Fils Jésus-Christ et que Jésus-Christ continue à avoir maintenant à travers de ses enfants en Christ. Jean chapitre 15. Vous savez, si Dieu compare cette relation d'amour du Fils de Dieu envers son Église pour la relation d'amour qui devrait exister entre mari et femme, c'est que c'est très sérieux le mariage. Et ça doit, n'est-ce pas, s'honorer profondément un mariage, la vie de mariage. Vous savez, dans le couple, c'est une bonne façon de savoir où nous sommes. Demandez à votre conjoint qu'est-ce qu'il pense de votre vie spirituelle. S'il a ses spirituels, ses discernements, il vous dira vraiment la vérité. Et en couple, on doit vivre dans la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là où on voit vraiment où nous en sommes avec le Seigneur. On peut cacher beaucoup de choses aux autres. Mais quand on vit intimement avec quelqu'un, et c'est, même si vous n'êtes pas marié, vous avez des amis, ben, posez-vous la question, comment mes amis me voient? Est-ce qu'ils me voient spirituel? Est-ce qu'ils me voient transformé? Est-ce qu'ils me voient rempli de l'amour de Christ? Est-ce que je fais partie, est-ce que je suis conscient, je fais partie de cet amour dans l'Église que Christ dépose constamment afin de la faire paraître un jour glorieuse, sans tâche, etc. Est-ce que je vise la sainteté dans mon couple et dans ma vie personnelle? Alors on va regarder ce qu'est la relation de l'Église avec Christ. On a vu la relation de Christ envers l'Église. Maintenant, quelle est la relation de l'Église avec Christ? Puisque c'est une image pour le mariage, il faut approfondir, n'est-ce pas, cette relation et la comprendre dans les deux sens. Mais l'Église est un corps, donc Christ est la tête. Donc l'Église accepte qu'elle est conduite par un chef. Et ce chef, c'est Christ. C'est lui notre bon berger. C'est lui qui nous dirige, c'est lui la tête. Et la responsabilité de chaque croyant, c'est de s'attacher au Seigneur. Alors là, c'est amplement, on l'a regardé ensemble, au chapitre 4, n'est-ce pas ? Il est écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La croissance de l'Église dépend de la croissance de chacun de ses membres. On est un corps. Mais c'est dans la mesure où le membre est plein de vie, où il n'est pas atrophié, handicapé, parce qu'attaché à Christ, la tête, le sarment, encore une fois, attaché au cèpe, et la sève coule, que la vie du croyant permet la vie dans l'Église. Mais tout cela se fait lorsqu'on se soumet à Christ. Est-ce que vraiment votre vie est soumise à Christ ? Vous savez, nous ne sommes pas capables de nous soumettre les uns aux autres si d'abord on n'a pas appris à se soumettre à Christ. L'humilité vient dans la soumission avec Christ. Le brisement vient dans la soumission avec Christ. Le rejet de l'orgueil vient dans la soumission avec Christ. L'égoïsme, le rejet de l'égoïsme vient dans la soumission avec Christ. Et lorsqu'on purifie son cœur de ces péchés-là, eh bien on est en communion avec les frères et sœurs et on a hâte, n'est-ce pas, de jouir de cette communion en Christ. Car aussi, on donne toute la gloire à Dieu parce qu'on sait bien que Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ma part, en tant qu'Église, c'est d'être attaché à Christ, à la tête, pour jouir pleinement de cette relation d'amour, de cette plénitude. Alors, l'Église est un corps, donc Christ est la tête, dont l'Église doit se soumettre. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mettre en toutes choses, l'Église est soumise à Christ. Pourquoi ? Parce que Christ en est la tête, et le chef, et que son bien en dépend. Quelqu'un a dit ceci, au combien... Alors, c'est moi qui l'ai écrit, excusez. Des fois, j'ai des notes avec une certaine couleur pour citer un commentaire, mais là, c'est moi qui fais le commentaire. Je vous le lis. Combien l'histoire de l'Église démontre que lorsque Jésus-Christ n'est pas la tête, quand l'Église est loin de Dieu et de sa parole, elle n'évangélise plus. Elle perd la perspective du ciel. Elle pêche sans être reprise ou sans se reprendre, sans se repentir. Elle se divise, tombe dans l'hérésie et finalement s'institutionnalise. Elle devient un christianisme sans Christ, sans vie, un corps sans tête meurt. C'est terrible cela. Et vous savez, nous avons besoin de veiller à ce que chaque partie de notre être soit pleine de vie pour Christ et chaque membre de l'Église soit pleine de vie pour Christ et que notre Église soit pleine de vie parce qu'on a une tête qui est pleine de vie. C'est Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alors, on va commencer par les femmes. Alors, rassurez-vous, on parlera des maris après. Hein. Mais c'est vrai que Paul n'y va pas du dos la cuillère. Il dit, femmes, soyez soumises aux maris. Alors, on a déjà fait des séminaires ici, déjà des choses sur la famille, donc je ne pourrais pas étendre ce qu'est la soumission de la femme comme j'aimerais ce matin, parce qu'on l'a déjà vu abondamment dans d'autres moments. Et aussi, précédemment, en étudiant... Chapitre 5, verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, on a vu ce qu'était la soumission de façon générale, donc je ne peux pas revenir là-dessus ce matin, mais on va voir tout simplement ce que dit le texte ici au sujet de la soumission de la femme et rester dans ce contexte, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que la soumission ? En fait, quel est le rôle de la femme ? Et Paul dit, voilà, femme, soyez soumise à vos maris. Alors, la signification du mot grec est sans appel, n'est-ce pas ? Je vous passe le mot grec, mais c'est se soumettre au contrôle de quelqu'un. Céder à un avertissement ou un conseil, obéir, être soumis, être assujetti. Alors, je dis de suite que ce n'est pas que l'homme doit dire à sa femme, tu dois m'obéir. C'est écrit, femme, soyez soumise, c'est un acte volontaire. Et sachez une chose, que la soumission, c'est réciproque dans le couple, c'est pas sens unique. Juste avant, pour montrer la plénitude du Saint-Esprit, Paul dit « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Mais dans le mariage, Dieu dit que le rôle de la femme, c'est un rôle de soumission. Donc elle doit accepter dans son cœur de jouer ce rôle, parce que Dieu le lui demande, et c'est ainsi que Dieu a établi le mariage, la femme, dans son rôle, doit être soumise à son mari. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, il y a un terme militaire... grec, qui emploie le même mot, n'est-ce pas, grec, dans un sens, donc c'est d'être sous le commandement d'un chef, où il y a une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Autrement dit, la femme se soumet volontairement à son mari. Dieu ne dit pas que l'homme, le mari, doit imposer un esclavage à sa femme, comme si elle était inférieure. Dans certaines sociétés, c'est exactement ce qui se passe. En fait, la soumission, disons-le, c'est synonyme d'obéissance. Nous savons ce qu'est l'obéissance. Nous demandons à nos enfants de nous obéir. Là, nous avons le droit. Mais un mari n'a pas le droit de dire à sa femme, tu dois m'obéir. C'est elle qui doit dire, je me soumets à toi. C'est pas pareil, cela. Maintenant, en se soumettant, elle obéit. Mari et femme, ça c'est John MacArthur qui le dit, c'est encore mieux. Hein? Mari et femme doivent se posséder mutuellement autant qu'ils se soumettent mutuellement. Ils s'appartiennent mutuellement l'un et l'autre en parfaite égalité. Le mari ne possède pas plus sa femme qu'elle ne le possède. Il ne possède aucune supériorité et elle, aucune infériorité. Vous savez, quand Paul a écrit ça, c'était dans un contexte où la femme était souvent abaissée, rabaissée, à un rôle presque d'esclave hein, dans la société. Et on dit que Paul était misogyne, mais non, Paul a tout simplement rétabli, il était célibataire, on disait, bon, il est misogyne. Non, non, Paul a rétabli la vraie égalité mari et femme. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec. Paul a rétabli le rôle de la femme, et dans l'Église, et dans le mariage, et en précisant bien, dans son rôle, que la femme doit être soumise, toutefois, à son mari. C'est synonyme de respect. On trouve ça en Éphésiens 5, 33. Du reste, que chacune de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Dans la soumission, il y a un profond respect. Je ne sais pas vous, mais il y a une des choses les plus horribles que j'ai vécues ou déjà entendues en tant qu'observateur, c'est quand une épouse dénigre son mari en public. Déjà qu'elle le fasse en privé, c'est grave, n'est-ce pas ? Mais en public, une femme qui ose dire devant des témoins, en parlant de son mari ou un sujet hein, qu'il est un incapable ou pas ci, pas ça, il n'y a rien de plus horrible. Parce que c'est un manque de respect. La femme, Dieu l'a établie pour être une aide semblable à son mari. La femme a pour rôle d'être soumise et d'être une aide avec son mari. Pourquoi ? Parce que son mari a besoin d'une aide pour être complet, complété. Parce que quand Adam a été créé, il était seul, il était célibataire, il était un peu seul. On lui dit, ben, il est trop seul, il veut créer une femme et puis avoir des enfants, ils vont procréer. C'est ça l'attitude de Dieu pour la création de la femme, le désir de Dieu, c'est que l'homme est incomplet par lui-même, il a besoin d'être complété. Et pour ça, il a créé une aide. Donc la femme, plus elle aide son mari, plus elle est à la place de Dieu. Alors c'est réciproque, évidemment, vous comprenez. J'ai marqué, il faut que j'aille un peu plus vite, une femme soumise est donc une femme qui accepte l'autorité de son mari comme le chef du foyer conjugal. Chaque épouse est appelée à se soumettre. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, vous avez compris, quand les rôles de la femme comme du mari, mais je le dis déjà de suite, n'est pas là, mais le couple est déséquilibré. Et c'est triste de voir... Alors, malheureusement, le monde inconverti ne vit pas toujours cela, quoiqu'il y a parfois des maris et des femmes dans le monde inconverti qui donnent des exemples dans ce domaine, hein, plus que parfois certains chrétiens. Mais chaque épouse est appelée à se soumettre. Il n'y a pas d'exception. Ma mari est plus intelligent. Je suis plus intelligent que mon mari. Je suis plus compétent. Je suis plus capable. J'ai une femme m'a dit, une épouse, mon mari, c'est un bon à rien. Et le mari était là. C'était pas très gentil de dire ça, vous voyez. Alors elle prenait l'autorité, elle portait les pantalons, comme on dit au Québec. Hein. Mais je peux vous dire que ce mariage était en souffrance. Ce couple était en souffrance. Voilà. John MacArthur a encore dit ceci. C'est un ordre catégorique qui s'applique à toute épouse chrétienne, quelles que soient ses compétences, son éducation, sa connaissance des Écritures, sa maturité spirituelle ou tout autre domaine où elle pourrait être plus compétente que son mari. Quand la Bible dit que chacune soit soumise, c'est sans exception. C'est-à-dire que chaque femme, dans son cœur, doit disposer son cœur à être soumise envers son mari. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue là, parce que le mari peut se tromper, la femme aussi d'ailleurs, hein. Mais le mari peut se tromper et la femme peut rectifier des erreurs de comportement. Et ma femme l'a fait souvent dans ma vie. Elle m'a dit, là, peut-être, envers les enfants, tu devrais changer, là, peut-être. Et c'est bien d'avoir une compagne à côté qui rectifie nos attitudes qui ne sont pas toujours justes et droites ou pleines d'amour. Donc la femme doit d'elle-même, et c'est chacune qui est appelée à se soumettre, il n'y a pas d'exception. que chacune soit de même soumise à son mari. C'est Pierre qui dit ça au chapitre 3, verset 1. Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Une femme qui est mariée à un homme qui n'a pas encore accepté le Seigneur, eh bien, sa soumission va être un terrain favorable à gagner le cœur de son mari. Et ce qui est étonnant, ça m'a frappé, je ne l'avais jamais vu comme ça, parce que je lis un Pierre 3:1, femme, je suis un peu attaché à ce moment-là, à ce verset, à la soumission de la femme. Et quand on lit ce qui précède, on voit les souffrances de Christ en obéissance à Dieu le Père. J'avais jamais vu cela. Une épouse mariée à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, elle va avoir des souffrances. Nous avons connu, ma femme et moi, dans nos ministères différents, différentes églises, des épouses mariées, ou réciproquement d'ailleurs, mais des épouses mariées à des gens, des maris qui ne connaissaient pas le Seigneur et qui étaient en souffrance. Mais la seule façon de gagner le mari qui ne connaît pas le Seigneur, c'est d'avoir cette attitude dans le cœur de soumission, de respect profond, afin de gagner son mari sans parole. Alors c'est tout un défi, n'est-ce pas? Et des fois, dans un couple, il y en a un qui se convertit après le mariage, et donc il y a comme un mariage mixte, n'est-ce pas? Où l'un est sauvé, l'autre pas, et il y a vraiment un défi là. Cinquièmement, la femme doit se soumettre à son mari comme elle s'est soumettée au Seigneur. Comment la femme doit-elle se soumettre? Eh bien, comme au Seigneur. Mais vous savez, ça c'est extraordinaire. Quand vous êtes mari, et que votre femme vous dit... ou à une attitude de cœur qui est soumise comme à son Seigneur, mais alors vous devenez un roi à la maison. Hein? Ah oui, parce que d'avoir une femme qui est prête à se soumettre à son mari comme au Seigneur, c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. J'ai mis ceci dans mes notes. L'épouse spirituelle se soumet avant tout au Seigneur. Lorsqu'elle se soumet dans l'amour à son mari, elle fait donc acte d'obéissance au Seigneur, qui lui a donné l'ordre parce que telle était sa volonté à son égard, indépendamment de la valeur personnelle et de l'état spirituel de son mari. Une femme soumise est soumise parce qu'elle connaît Jésus-Christ de façon intime et personnelle. Et donc, de se soumettre aux autres est beaucoup plus facile pour elle parce qu'elle a appris à se soumettre à Dieu et à mettre la parole en pratique, parce que l'obéissance, c'est un état d'esprit, mais il faut que ce soit mesurable dans les choses pratiques de la vie. Ce n'est pas quelque chose comme ça, un sentiment passager. Je suis soumis 10 secondes, mais après j'en fais le reste de ma vie comme je veux. Ce n'est pas ça. C'est un état d'esprit permanent de soumission où on place son rôle de femme devant Dieu sous le regard de Dieu. Donc on se soumet à son mari comme au Seigneur. Donc la femme doit se soumettre à son mari, dit la Bible, enfin, en toutes choses. Oh là là, c'est possible se soumettre en toute chose à son mari. Heureusement que c'est écrit comme au Seigneur, hein, parce que le Seigneur ne demande pas certaines choses. Donc à un moment donné, on peut dire à son mari, le Seigneur, il me semble, ne veut pas ça. Mais c'est quand même une attitude d'une soumission dans tous les domaines de la vie. C'est pas là, je me soumets, mais là, écoute, non, c'est moi qui... Hein, tu comprends? Non, c'est pas ça. La femme accepte un rôle de soumission, et en toute chose, c'est un état d'esprit permanent où elle se met sous l'autorité du mari. Alors, vous qui avez suivi des cours de préparation au mariage, certains d'entre vous, vous savez que j'ai quelques illustrations. D'abord, je sors toujours un parapluie, au moins un dessin, et j'explique que le parapluie représente l'autorité déléguée par Dieu au mari, et que tant que la femme est sous ce parapluie, elle est protégée. À partir du moment où la femme sort de ce parapluie d'autorité, elle n'est plus protégée, l'ennemi l'attaque. Mais si le mari... qui est représenté par le mari, par le parapluie. Si le parapluie a un trou et que le mari ne fait pas juste son rôle, mais la femme qui veut quand même se tenir sous le parapluie, s'il y a un trou au parapluie, elle n'est pas protégée par l'autorité du mari. On va y venir. Donc la femme, en tout cas, si elle est mariée à un mari spirituel, elle est protégée, elle est sécurisée par cette autorité que Dieu confie de direction au mari. Kuhn dit ceci dans sa traduction, « Vous, épouses, apprenez à vous soumettre à votre mari, à le servir comme vous le faites pour le Seigneur. Apprenez à vous soumettre. » C'est vrai que dans le texte, on pourrait comprendre cela, à l'original, dans le sens d'un apprentissage. Ce n'est pas évident pour une femme d'apprendre à se soumettre. D'ailleurs, la nature humaine nous manque dès son enfance, que ce soit garçon ou fille, on est insoumis, n'est-ce pas? On est rebelle. Il n'y a aucun enfant naissant qui a crié « Alléluia, je vais obéir à mon père ou à ma mère ». Ça ne se fait pas, ça, n'est-ce pas? Et quand vous avez élevé des enfants, vous voyez bien que la nature humaine, elle est rebelle. D'ailleurs, regardons nos propres vies, hein, nos propres cœurs. On est tous des rebelles, repentants et repentis, mais on est tous des rebelles. Notre nature pécheresse nous pousse à la rébellion parce qu'on est des orgueilleux devant Dieu. Et quand Dieu nous sauve, eh bien, la rébellion, normalement, on est mort au péché et la rébellion, on apprend à se soumettre. C'est beau l'obéissance. Hein. C'est une des beautés de la vie chrétienne, du fruit de l'esprit chez le croyant, l'obéissance. Alors c'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage chez la femme qui doit se faire d'abord au pied du Seigneur, comme tout croyant. C'est dans la mesure où on apprend à se soumettre devant Dieu et devant les autres aussi, qu'on apprend la soumission dans un cercle plus intime, la femme envers son mari. C'est une soumission volontaire. Il n'y a pas de vraie soumission, de vraie obéissance sans soumission volontaire. Si on force l'obéissance, alors elle est forcée, mais elle n'est pas spirituelle, elle n'est pas selon le cœur de Dieu. Vous savez, Jésus a dit au jardin de Gethsémané, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. C'est extraordinaire, ça. On a tellement besoin d'apprendre à l'école du Seigneur, n'est-ce pas? Et de comprendre ce qu'est de se soumettre à Jésus-Christ comme lui-même s'est soumis à Dieu le Père. Et puis c'est pour cela que la femme doit se tenir au pied du Seigneur et cultiver une relation intime avec le Seigneur, demeurer dans son amour, pour avoir, ce que dit Pierre, cette parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, comme nous dit 1 Pierre 3, verset 4. C'est beau quand cet esprit existe chez l'épouse, un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Si vous avez une telle épouse à la maison, vous avez le plus grand trésor qui puisse exister sur la terre. Quelle est la relation du mari avec la femme? Alors, je vais dire, dans notre société, le féminisme pousse la femme à vouloir s'épanouir dans des chemins qui ne sont pas bibliques. Mais le machisme est aussi une voie qui pousse le mari ou l'homme à entrer dans un chemin d'épanouissement qui n'est pas de Dieu non plus, qui n'est pas biblique. Ni le féminisme, ni le machisme sont bibliques. C'est déséquilibré. L'homme et la femme sont faits à égalité devant Dieu, mais chacun a leur rôle. Et ce matin, Dieu nous place devant cet enseignement où la femme est soumise et le mari est le chef de la femme. Quel est le rôle du mari? C'est un chef. Mais pour être un chef, il faut d'abord avoir suivi Jésus. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que pour être dirigé comme Josué, qui longtemps, n'est-ce pas, a été avec Moïse un suiveur, un second, avant de prendre le peuple, n'est-ce pas, désigné par Dieu, certes, mais il a été d'abord un serviteur. C'est quand on sert qu'on devient un chef. Les petits chefs autoritaires qui veulent tout diriger, tout contrôler, ce ne sont pas des vrais leaders, si on emploie ce mot, ce ne sont pas des vrais chefs devant Dieu. Un chef, c'est avant tout un serviteur plein d'amour qui cherche à rendre service aux autres. C'est ça un vrai chef. C'est un modèle qui trace un chemin et qui dit humblement, eh bien, écoutez, ce chemin, c'est le chemin de Dieu, suivez-moi, parce que je suis Dieu. C'est ça un chef. Et on suit quelqu'un comme cela, parce qu'il suit Dieu. On ne suit pas quelqu'un qui n'est pas un modèle. Un chef, c'est un leader parce qu'il spirituel dans le foyer, parce qu'il se tient proche de Dieu, parce qu'il est rempli de la sagesse de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit, il s'humilie devant Dieu. L'apôtre Jacques, enfin, le demi-frère de Jésus, disait, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, elle lui sera donnée. Mais qui ne manque pas de sagesse pour diriger son foyer? Et tout leader doit s'humilier pour dire, Seigneur, je manque de sagesse, donne-moi ta sagesse pour diriger mon foyer. Donne-moi ta sagesse pour aimer ma femme, comme toi tu veux que je l'aime. Donne-moi ta sagesse pour aimer ma femme selon les prescriptions bibliques. Sagesse au foyer, prends les bonnes décisions, souvent prises à Dieu, mais le mari a le dernier mot, lorsqu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair, guider le foyer dans le domaine spirituel, selon les normes bibliques. Christ est le chef de l'Église. Le mari doit donc tirer son rôle de l'exemple de Jésus. Et comment Jésus a dirigé ses disciples? Il les a conduits, il en a pris soin, il a passé du temps avec eux, il a donné sa vie pour eux de façon totale. Un mari qui aime sa femme, il se donne totalement. Ce n'est pas « qu'est-ce que tu me donnes ? Je te donne 50%, tu me donnes 50%. » Je donne avant tout 100%. Je meurs à moi-même. J'ai un esprit de sacrifice. Comme Jésus s'est livré lui-même pour amour de l'Église, le mari se livre à sa femme 100% comme un don total. Et lorsqu'on s'oublie et qu'on pense aux autres, on rend heureux les autres. C'est la meilleure façon de mûrir, de grandir, de se tenir au pied du Seigneur. C'est le modèle que Dieu veut qu'on ait en tant que, comme que Marie, d'aimer sa femme de façon totale. Alors, quelqu'un a dit, maintenant que l'autorité de Marie a été établie, l'accent est mis désormais sur l'importante responsabilité du mari à l'égard de son épouse. Il doit l'aimer du même amour que celui de Christ pour l'Église, c'est-à-dire un amour sans réserve, sans égoïsme, prêt à se sacrifier pour elle. Et un autre commentateur a dit, Christ a donné tout ce qu'il avait, y compris sa propre vie, en faveur de son Église. Il a établi ainsi le modèle de sacrifice auquel le mari doit se conformer dans l'amour qu'il porte à son épouse. Aimer, c'est juste que donner toute sa vie. Bon, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote, mais ça va peut-être vous faire rire, mais le sujet est sérieux quand même. Je me mariais, nous avions un enfant, Daniel, donc jeune bébé, et nous avons été dans un camp chrétien en plein milieu du bois au Canada, où il y avait plein de moustiques, c'était terrible. On se faisait piquer comme ça. Et alors on nous a mis un peu en bord du camp, dans une tente caravane, enfin toute petite, on avait une petite place pour nous deux, puis le bébé à droite, et ce temps-là, en allant dans ce camp, on avait lu dans le journal locaux que les ours étaient affamés, qu'ils étaient entrés dans un camp quelque part et qu'ils avaient un ours avait pris un enfant pour le dévorer. Et au milieu de la nuit, j'entends des drôles de bruits et je me dis, ça y est, c'est l'ours. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors je commence à réfléchir, je prie, enfin je réveille pas ni ma femme, je dis, bon, mais écoute, si l'ours arrive, tu te mets entre ta femme et l'ours, entre l'ours et le bébé, n'est-ce pas? Et puis finalement, heureusement, c'est jamais arrivé. Hein. Mais vous voyez, j'étais prêt à me sacrifier, mais enfin, je tremblais quand même. Puis c'était toutes sortes d'autres bruits de la forêt qui n'avaient rien à faire avec les ours. Enfin voilà, bon. Mais en tout cas, Dieu a éprouvé mon courage cette nuit-là, n'est-ce pas? D'être prêt à mourir pour sa femme, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Hein, voilà. Mais c'est plus que mourir physiquement, vous avez compris, c'est mourir intérieurement qui est dur. Parce que les maris, on est assez égoïste, n'est-ce pas? Moi d'abord. Et donc c'est ça qui coûte, c'est de mourir à soi pour penser à l'autre d'abord. Toi d'abord, toi d'abord. Comment est-ce que je peux te faire du bien? Comment est-ce que je peux t'aimer? Mais ce qui est merveilleux, c'est que cet amour, il est éternel. Hein? Christ nous aime de façon éternelle. Et quand un mari décide d'aimer sa femme, il l'aime toute sa vie. C'est extraordinaire, on peut aimer encore plus. Le progrès, le programme de Dieu, c'est d'aimer de plus en plus sa femme. Et c'est possible, parce que l'amour de Dieu est infini. Vous manquez d'amour, allez au pied du Seigneur, c'est une fontaine d'amour, il vous remplit, hop, ça déborde à nouveau. Et puis, il nous apprend à aimer différemment, selon la personne. C'est ça, aimer, jusqu'au bout. Et la Bible dit que chaque mari doit aimer sa femme, c'est un commandement. Il y a un homme qui m'a bouleversé dans ma vie, c'était un ami de mon père, qui était marié à la meilleure amie de ma mère. Et un centralien qui avait une grande situation, et sa femme a eu la sclérose en plaques. Et il a décidé de quitter son emploi pour s'occuper de sa femme. Et pendant 10 ans, avant qu'elle ne meure, il a pris soin d'elle. Jour après jour, il l'a lavée, il l'a nettoyée, il l'a faite manger. J'étais là, des fois je l'ai vue, elle était finalement en chaise roulante, etc. Un homme, pendant les 10 dernières années de sa vie, qui a donné 100% de son temps vers sa femme. Moi, j'étais brisé quand j'ai vu ça. Brisé. C'est ça l'amour total, jusqu'au bout. Hein. Dans les bons, on fait des promesses, on va dire dans les bons et les mauvais jours, mais quand les mauvais jours sont là, c'est là où on voit si on aime vraiment, hein, dans le couple. Comment le mari doit-il aimer? Ben, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même. Voilà, il est mort pour elle, donc il s'est donné entièrement. Comment Jésus-Christ continue-t-il d'aimer son Église? Ben, il la sanctifie par la parole. Alors c'est un point important que je vais partager maintenant. Dans un but éternel, afin de la faire paraître glorieuse dans le ciel, sans tache ni rien de semblable, le rôle du mari, et je vais terminer sur ce point-là, un ou deux points encore, mais ce deux points-là, le rôle du mari, c'est de placer la parole au sein de son foyer. La parole de Dieu, de la vivre lui-même, afin de se sanctifier pour sanctifier les siens, son épouse et ses enfants. La Bible dit, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, etc. Le mari doit vivre dans la perspective de l'éternité. Plus il est proche du ciel, plus il est proche de Dieu, plus il aura une récompense dans le ciel et plus son épouse aura une récompense dans le ciel. Son ambition spirituelle, c'est d'amener son foyer au pied du Seigneur, le plus proche possible du Seigneur, dans la perspective glorieuse de son avenir au ciel. Vous vous rendez compte de cela? Quand le Seigneur m'a montré cela, j'étais jeune marié, j'ai dit, mais c'est extraordinaire, mais quelle responsabilité que le mari a de favoriser la vie spirituelle de son épouse afin qu'elle entre de façon glorieuse dans le ciel. Chacun de nous, bien sûr, vous avez compris. Mais le mari doit favoriser la vie spirituelle de sa femme. Elle doit être un joyau devant Dieu. Il doit tout favoriser. Il doit prier pour elle. Il doit lire la Bible avec elle. Il doit prier avec elle pour favoriser sa vie et sa rencontre avec le Seigneur dans les cieux. Ce n'est pas que son salut, vous comprenez, mais c'est le perfectionnement de son salut. Et même en pensant à sa propre vie, s'il est proche de Dieu, eh bien, il va penser à la vie de sa femme pour qu'elle soit encore plus proche de Dieu. C'est ça la beauté de l'amour de Christ dans la vie d'un mari. Il veut que sa femme soit le plus proche possible de Dieu. Parce qu'un jour, chacun de nous, on va paraître devant Dieu, dans le ciel, et c'est extraordinaire. Donc, il y a une perspective céleste. Le mari et la femme, un foyer, doivent vivre pour l'éternité. La Bible dit que quiconque a cette espérance se purifie lui-même. On verra le Seigneur et on sera tel qu'il est, nous dit l'apôtre Jean dans l'épître de Jean. Et quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme lui-même est pur, Jésus. C'est sûr qu'on a la crainte de Dieu. Le jour où on va voir Dieu face à face, quand on va voir sa pureté, sa sainteté parfaite, et nous, on se connaît, on va être brisé à ses pieds, n'est-ce pas? Mais en attendant, Dieu nous demande de nous préparer et donc de purifier son cœur et de veiller à la purification du cœur de son épouse. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est le deuxième point, je voulais terminer. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors le mari prend soin de lui, n'est-ce pas? Alors les deux commentateurs, rapidement, c'est l'une des descriptions les plus poignantes, dit MacArthur, et les plus attachantes de l'unité qui devrait exister au sein du mariage chrétien. Le mari chrétien doit prendre soin de sa femme avec le même dévouement que celui qu'il a naturellement pour lui-même, et même plus, puisque son amour sacrificiel l'entraîne à la considérer comme priorité par rapport à lui. Dans le sens que, voilà, le mari qui prend soin de lui, son corps, ben, on prend soin, hein, on se soigne, on veille à son confort. Quand on est malade, on se soigne, il doit faire pareil, il doit avoir ce même esprit. Alors, veiller sur son corps, ce n'est pas grand-chose, mais quand Christ veille sur son Église, qui est son corps, il veille particulièrement, alors on doit faire d'autant plus attention à veiller au bien de son épouse. L'homme né avait l'instinct de prendre soin de son propre corps, dit un autre commentateur, il le nourrit, il l'habille, il le baigne, il le protège contre l'inconfort, la douleur, le danger. Le corps ne peut continuer à survivre que grâce à ses soins, cet intérêt plein de sollicitude n'est qu'une pâle reflet des soins que Christ prend pour son Église. Et puis, le mari doit faire de sa relation avec sa femme une priorité. Il est dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, c'est faire de sa relation avec sa femme une priorité. C'est plus ma relation avec mon père, avec ma mère qui est une priorité, c'est ma relation avec mon conjoint. Et c'est vrai dans les deux cas, puisqu'ils ne forment qu'une seule chair. Alors je me dis, oui, il ne faut pas vivre à côté de ses parents, parce qu'ils pourraient trop s'initier, n'est-ce pas, dans la vie de mon couple. Mais je peux vous dire qu'il y a des parents à distance qui pourraient s'initier dans la vie du couple et faire autant de tort, malheureusement, que des parents tout proches. Le problème n'est pas la proximité géographique. Ça peut exister un problème dans ce cas-là. Le problème, c'est quand les parents n'ont pas cessé de jouer un rôle de parents avec leurs enfants, parce qu'ils les laissent partir normalement, et qui s'ingèrent dans la vie de leurs enfants. Le jour où une jeune fille, un jeune homme se marie, il est coupé de ses parents, et sa priorité, les priorités relationnelles, c'est son conjoint. C'est Dieu d'abord, mais ensuite c'est son conjoint. Il ne doit pas dépendre de ses parents. Et les parents ne doivent pas s'ingérer dans leur vie de couple, puisque maintenant, ils sont une seule chair. La priorité d'un mari, la priorité d'une femme, c'est Dieu avant tout, et c'est son conjoint. On oublie de dire ça parfois, mais c'est important dans le mariage. Et puis finalement, en Éphésiens 5, 33, Paul termine, « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Donc, mari doit aimer sa femme comme lui-même. Au final, le mari qui aime sa femme, de cet amour-là, en reçoit de grandes bénédictions pour lui-même de la part de son épouse du Seigneur. Alors, on pourrait dire que c'est égoïste d'aimer sa femme parce qu'on a du retour. Mais on ne pense pas ça. Quand on aime. C'est l'altruisme. On aime pour aimer. Mais c'est incroyable. Un mari qui aime sa femme, combien il est comblé. C'est vrai, cela. Et réciproquement. Alors, en conclusion, le véritable lien qui existe entre l'Église, son Seigneur et Sauveur, c'est l'amour. Le véritable lien qui unit un homme et une femme, c'est l'amour. Au travers de ce lien, on a vu dans ce passage que la femme a un rôle de soumission, de respect d'elle envers son mari. Et on a vu que le mari doit être un leader serviteur, guidé par un don total de sa personne, vivre un sacrifice dans l'amour de Christ pour son épouse. Il protège sa femme sous le parapluie de l'autorité qu'on lui a donnée. Et Dieu dirige l'homme à aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Alors un défi pour nous les couples, avons-nous compris ces différents rôles? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Est-ce que vous êtes soumis en tant qu'épouse à votre mari? Et mari, est-ce que vous savez diriger votre foyer selon Dieu? Et puis, comme on a vu cette relation d'amour extraordinaire de Christ envers son Église, nous, membres de son corps, est-ce que vraiment nous sommes soumis à Jésus-Christ? Parce que la soumission, c'est lié avec l'amour. Et si nous prétendons être soumis à Christ, que nous prétendons l'aimer, mais que nous ne sommes pas soumis à Christ, réfléchissons humblement. Posons-nous la question, dans quelle mesure vraiment je mets cette parole en pratique dans ma vie? De vivre une vie de soumission à Christ, qui est la tête de l'Église, le chef. Vous avez pour chef Christ. Est-ce que vous êtes heureux de cette relation? En même temps, il est votre ami, c'est vrai, il est le bon berger. Mais est-ce qu'il est le chef de tout? Est-ce qu'il est votre Seigneur ce matin? Est-ce qu'il est mon Seigneur? Prions. Notre Père Céleste, merci de nous avoir rappelé cette belle image de ta relation avec l'Église et de ce qu'elle est, ce que tu veux qui existe dans la vie du couple, mari et femme, et aussi dans chacun de nous, dans cette relation d'amour. Seigneur Jésus, donne-nous de nous aimer en tant que mari et femme, selon toi, de jouer chacun notre rôle. Donne-nous aussi, Seigneur, de nous aimer les uns les autres dans l'Église, car tu nous as aimés. Et nous te reconnaissons, Jésus, comme Seigneur, comme Roi des rois, comme chef de l'Église. Et nous sommes ton corps, et nous voulons prendre soin les uns des autres, et nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous aimes, et ainsi te donner toute la gloire, et nous laisser purifier, sanctifier, pour un jour paraître glorieux, comme Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen.